Première épître de Jean, chapitre 2.
Lecture de la parole. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Et par ceci nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais quiconque garde sa parole, en lui l'amour de Dieu est véritablement consommé. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit « demeurer en lui » doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Bien-aimés, je ne vous écris pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Le commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres s'en vont et que la vraie lumière luit déjà. Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a point en lui d'occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés par son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le méchant. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs Antichrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et c'est ici la promesse que lui nous a promise, la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent. Et, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne ne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie, et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. Si vous savez qu'il est juste, Sachez que quiconque pratique la justice est né de lui.
Lecture de l'étude. Les derniers versets du chapitre 1 nous ont montré qu'il serait absolument faux de dire que nous n'avons pas de péché, ni que nous n'avons pas péché. Les premiers mots du chapitre 2 sont là comme un contrepoids, afin que nous ne tirions pas la conclusion hâtive que nous avons une bonne excuse pour pécher, que nous n'y pouvons pas grand-chose, et que le péché est pratiquement inévitable. Ce serait entièrement faux. Jean écrit ces choses afin que nous ne péchions pas. D'autres passages parlent des ressources spéciales que nous avons pour être gardés de chute. Ce qui est mis en évidence ici, c'est que, si nous sommes introduits dans la communion divine dont nous parle le verset 3 du chapitre 1er, nous serons gardés. La jouissance de cette communion exclut le péché, exactement comme le péché exclut de la jouissance de cette communion jusqu'à ce qu'il soit confessé. Nous avons d'amples ressources afin que nous ne péchions pas, bien que le péché soit encore en nous. Nous ne devrions pas pécher. Nous n'avons pas d'excuses si nous péchons. Et si cela arrive, nous avons un avocat auprès du Père, Dieu en soit béni. Le mot traduit ici par « avocat » est le même que celui qui est traduit par « consolateur » en Jean 14. Il signifie littéralement « celui qui est appelé à aider ». Celui qui est ressuscité, Jésus-Christ le juste, a été appelé auprès du Père dans la gloire, afin d'assister les croyants s'il leur arrive de pécher. Et le Saint-Esprit a été envoyé auprès de nous ici-bas pour nous aider. Vous remarquez qu'il est écrit auprès du Père. Il en est ainsi parce que l'avocat agit en faveur de ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Le chapitre s'ouvre par l'expression « mes enfants ». Le mot utilisé là n'est pas celui qui désigne les petits-enfants, mais les enfants d'une façon plus générale. De cette manière affectueuse, l'apôtre âgé considère tous les vrais enfants de Dieu comme étant ses propres enfants. Nous avons été introduits dans la relation d'enfants de Dieu par le Sauveur. Voir Jean 1, verset 12.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom.
Et étant dans cette relation, nous avons besoin des services de l'avocat lorsque nous péchons. L'apôtre souligne la justice de notre avocat. Nous nous serions peut-être attendus à ce que ce soit sa bonté et sa miséricorde qui soient mises en évidence ici. En fait, nous trouvons, et non seulement ici, que l'emphase est mise sur la justice quand il est question du péché. Celui qui prend en main notre cause en présence du Père, quand nous péchons, veille à ce que la justice soit mise au premier plan. D'une part, la gloire du Père ne doit pas être ternie par notre péché, et d'autre part, il agira envers nous avec justice pour que nous puissions arriver à un jugement saint et juste de notre péché, que nous soyons amenés à le confesser et à en être pardonnés et purifiés. Celui qui est notre avocat dans le ciel est aussi la propitiation pour nos péchés. Ce fait nous ramène au fondement sur lequel tout repose. Par le sacrifice propitiatoire de Christ, toutes les exigences de Dieu à notre égard ont été satisfaites, et Jésus accomplit son service d'avocat auprès du Père sur cette base de justice. Sa propitiation a réglé pour nous, comme pécheurs, les questions éternelles que nos péchés avaient soulevées. Son service actuel d'avocat règle les questions soulevées devant notre Père si nous péchons, comme enfants de Dieu. La propitiation est ce que nous pouvons appeler le côté divin de la mort de Christ. Elle concerne le sujet le plus fondamental de tous, la satisfaction des droits divins à l'égard du péché. La satisfaction des besoins du pécheur ne vient qu'en second lieu. C'est pourquoi, quand Paul déploie l'Évangile dans l'Épître aux Romains, la première mention de la mort de Christ est « le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Chapitre 3, verset 25. Nous ne rencontrons pas clairement la substitution avant la fin du chapitre 4, où nous lisons « Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes », verset 25. Ici, dans notre chapitre, comme il s'agit de l'aspect divin de la mort de Christ, c'est le cercle le plus large possible qui est en vue, le monde entier. Lorsqu'il s'agit de substitution, les croyants seuls sont en vue, et il est dit « nos fautes » ou « les péchés de plusieurs ». Bien que les croyants seuls soient effectivement au bénéfice de la mort de Christ, il est nécessaire pour Dieu que la propitiation soit faite à l'égard de tout péché jamais commis par l'homme, en raison de l'immense outrage que le péché lui a fait. Ainsi, la propitiation a été faite par la mort de Christ, et à cause de cela, Dieu peut librement offrir le pardon aux hommes, sans compromettre le moindre trait de sa nature et de son caractère. Le mot « propitiation » suscite souvent la colère et la moquerie de la part de certains opposants à l'Évangile. Il lui donne la même signification que les païens, chez lesquels, par le moyen de beaucoup de sang versé, on apaise quelques puissances antagonistes, irritées et avides de sang. Mais, dans les Écritures, le mot se situe sur un plan autrement élevé. Il porte encore le sens général d'apaiser ou de rendre favorable par un sacrifice, mais il n'y a aucun fondement à considérer Dieu comme antagoniste ou avide de sang. Il est infiniment saint, il est juste dans toutes ses voies. Sa majesté est éternelle, sa nature même et tous ses attributs doivent recevoir ce qui leur est dû et être magnifiés dans l'exécution d'un jugement approprié sur le mal. Cependant, Dieu n'est pas contre l'homme, mais pour lui, et ce que sa justice demandait, son amour l'a fourni. C'est ce que nous lisons plus loin dans notre épître, « Lui nous aima et envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés », chapitre 4, verset 10. Dieu lui-même a fourni la propitiation, son propre Fils, qui lui-même est Dieu, est devenu cette propitiation. Nous en arrivons maintenant à une autre prétention fausse que certains exprimaient à l'occasion en disant « Je le connais ». Le croyant peut certainement dire avec une grande joie qu'il connaît Dieu, puisque la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ est sa part, et qu'il ne peut y avoir de communion sans connaissance. Et pourtant, un test est de nouveau nécessaire pour montrer qu'une telle affirmation n'est pas une simple prétention. Le test est celui de l'obéissance au commandement qu'il nous a donné. La connaissance de Dieu est inséparablement liée à l'obéissance qui lui est due. En gardant ses commandements, nous savons que nous avons le privilège de le connaître. En dehors de cette obéissance, cette connaissance ne peut exister, et celui qui y prétendrait ne ferait que manifester que la vérité n'est pas en lui. Comparez le verset 4 avec le verset 8 du chapitre 1er.
Verset 4, celui qui dit « Je le connais et qui ne garde pas ses commandements est menteur et la vérité n'est pas en lui. » Chapitre 1er, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous.
La vérité n'est pas en celui qui dit qu'il n'a pas de péché. Et elle n'est pas davantage en celui qui dit qu'il connaît Dieu et pourtant n'obéit pas à ses commandements. Retenons bien le fait qu'il y a des commandements dans le christianisme, bien qu'ils ne soient pas d'un ordre légal, et par cela nous voulons dire qu'ils ne nous sont pas donnés pour que nous puissions, par eux, soit établir, soit maintenir notre position devant Dieu. Chaque expression définie de la volonté de Dieu a la force d'un commandement. Et nous verrons que cette épître a beaucoup à nous dire à propos des commandements de Dieu. En particulier, ils ne sont pas pénibles. Chapitre 5, verset 3.
Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles.
La loi de Christ est une loi de liberté par le fait que nous sommes rendus participants de sa vie et de sa nature. Au verset 3 et 4, il est question de garder ses commandements, et au verset 5, de garder sa parole. C'est quelque chose de plus. Sa parole comprend tout ce qu'il nous a révélé de sa pensée et de sa volonté, y compris bien sûr ses commandements. Mais cela va au-delà. Un homme peut donner à ses fils différentes instructions définies, ce sont ses commandements. Mais au-delà de ceci, ses fils peuvent avoir glané une connaissance intime de sa pensée par le moyen de leurs entretiens journaliers au cours des années. Ainsi, avec un respect filial, ils peuvent observer soigneusement sa parole, même quand ils n'ont aucune instruction précise. Il devrait en être ainsi des enfants de Dieu. Et lorsqu'il en est ainsi, l'amour de Dieu est véritablement consommé en eux, parce qu'il a produit en eux son effet propre et sa réponse. De plus, par une telle obéissance, nous savons que nous sommes en lui. Le fait que nous sommes en lui implique notre participation à sa vie et à sa nature. Il y a bien sûr un lien très étroit entre savoir que nous le connaissons, verset 3, et savoir que nous sommes en lui, verset 5. Mais la seconde chose est plus profonde. Les anges le connaissent et obéissent à ses commandements. Quant à nous, c'est comme étant en lui que nous devrions le connaître, et par conséquent nous devrions comprendre sa pensée ou son désir au moindre signe, et être amenés ainsi à une joyeuse obéissance. Étant en lui, nous devons demeurer en lui. Cela signifie, comme nous le comprenons, demeurer dans la conscience et dans la puissance du fait que nous sommes en lui. Or, il nous est facile de dire « je demeure en lui ». Mais s'il en est ainsi, nous devons montrer ce qui prouve que cette affirmation correspond à la réalité. Celui qui dit « demeurer en lui » doit lui-même aussi marcher comme lui a marché, verset 6. Si nous vivons de sa vie et possédons la puissance et la jouissance de celle-ci, cette vie s'exprimera elle-même dans notre marche et dans nos activités comme elle l'a fait en lui. La grâce et la puissance de notre marche, en comparaison avec la sienne, seront toujours pauvres et faibles. Pourtant, ce sera une marche du même ordre. La différence ne sera pas dans le genre de vie, mais seulement dans le degré où nous la réalisons. Quelle élévation extraordinaire devrait donc caractériser notre marche ? Combien son niveau devrait-il être plus élevé que ce qui était accepté à l'époque de l'Ancien Testament ? Lorsque Jean écrivait ces lignes, plusieurs pouvaient avoir envie de dire qu'il plaçait la barre trop haut et qu'il introduisait quelque chose d'entièrement nouveau. C'est pourquoi, au verset 7, il leur assure que ce qu'il leur présente n'était pas nouveau, comme l'étaient les enseignements des antichrists, mais qu'il s'agissait plutôt d'un commandement ancien. En même temps, dans un autre sens, c'était un nouveau commandement. Il n'y a pas de contradiction ici, bien qu'il y ait un paradoxe. C'était un commandement ancien parce que, dès le commencement, il avait été manifesté en Christ comme étant la sainte volonté et le bon plaisir de Dieu pour l'homme. Ainsi, rien en lui ne ressemblait aux nouvelles notions des gnostiques. Et pourtant, c'était un commandement nouveau, parce que maintenant il devait être mis en évidence en ceux qui appartenaient à Christ. Et ainsi, c'était une chose nouvelle pour eux. D'où l'expression « ce qui est vrai en lui et en vous », verset 8. La vie qui avait été manifestée en Christ et qui, au début, était exclusivement en lui, doit maintenant être trouvé dans les croyants qui sont en lui. S'ils demeurent en lui, la vie s'exprimera elle-même en eux de la même manière qu'en lui, et produira des fruits semblables. Et ainsi nous lisons la vraie lumière, lui déjà. Il y a le lien le plus étroit entre la vie et la lumière. Si la vraie vie a été manifestée en Christ, la vraie lumière a également brillé en lui. Si nous avons part à cette vraie vie, la vraie lumière brillera aussi en nous. L'apôtre écrit « Les ténèbres s'en vont, et non s'en sont allés. Ce n'est que dans le monde à venir qu'on pourra dire qu'elles s'en sont allées. Mais il est manifeste qu'elles s'en vont, parce que la vraie lumière a déjà commencé à briller en Christ et en ceux qui lui appartiennent. Quand Dieu agira en jugement et que la vie et la lumière trompeuses de ce monde seront éliminées, alors les ténèbres seront effectivement passées. Pour le présent, nous pouvons nous réjouir dans la certitude qu'elles s'en vont et que la vraie lumière brille déjà. Plus nous marcherons comme lui a marché, plus la lumière brillera effectivement à travers nous. Mais en outre, si la lumière doit maintenant briller en nous et à travers nous, nous devons nous-mêmes être dans la lumière. Affirmons-nous que nous sommes dans la lumière? Eh bien, il y a un test simple par lequel on pourra savoir si cette affirmation est juste. Si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière et que pourtant il haïsse son frère, sa prétention est fausse. Il est dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas réellement Dieu, il n'est pas dans la lumière de Dieu révélée en Christ. Nul ne peut être dans la sphère de la lumière de Dieu s'il n'est pas dans celle de la vie de Dieu, qui est celle de l'amour. C'est pourquoi, un peu plus loin, dans l'Épître, nous lisons « Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort », chapitre 3, verset 14. Ainsi, nous découvrons que la vie, la lumière et l'amour vont ensemble. Et, de par leur nature même, ces trois choses agissent comme test l'une relativement à l'autre. Celui qui aime son frère manifeste la vie, selon le chapitre 3. Ici, il demeure dans la lumière. Jean ajoute, « Et il n'y a point en lui d'occasion de chute », verset 10. Ceci est en contraste avec ce qui suit, au verset 11, où celui qui est son frère est décrit comme étant dans les ténèbres, marchant dans les ténèbres, et ne sachant pas où il va. Nous n'avons pas de lumière en nous-mêmes, tout comme la lune n'a de lumière que lorsqu'elle est éclairée par le soleil. Ainsi, celui qui est son frère, étant dans les ténèbres, est entièrement ténèbres lui-même, et par conséquent devient une occasion de chute pour d'autres. Il trébuche lui-même et agit comme une pierre d'achoppement. Tels étaient les antichrists et ceux qui les suivaient. Celui qui aime d'un amour qui est le fruit de la vie divine qu'il possède, marche dans la lumière. Il ne trébuche pas ni n'est une pierre d'achoppement pour d'autres. L'amour pour son frère est bien sûr l'amour pour tous ceux qui, comme nous-mêmes, sont nés de Dieu. C'est l'amour de la nature divine qui s'étend à tous ceux qui appartiennent à la famille divine. C'est un amour qui aime les enfants de Dieu parce qu'ils sont enfants de Dieu, en dehors de tout sentiment humain de sympathie ou d'antipathie. Une nouvelle section commence avec le verset 12. Au début du premier chapitre, Jean a indiqué les sujets qu'il a devant lui en écrivant. Ici, nous en avons la base. Tous ceux auxquels il s'adressait connaissaient la merveilleuse grâce d'avoir leurs péchés pardonnés, et tous occupaient la place d'enfants. C'est bien enfants et non petits-enfants qu'il faut ici. Ce terme inclut tous les enfants de Dieu sans distinction. Le pardon que nous avons reçu nous a été donné par son nom, exclusivement. L'efficacité, le mérite, est entièrement de lui. L'apôtre s'adresse à nous comme étant pardonnés et introduits dans une relation que Dieu lui-même a formée. D'un autre côté, il y a des distinctions dans la famille de Dieu. Celles-ci sont placées devant nous au verset 13. Il y a des pères, des jeunes gens et des petits-enfants. Jean indique de cette façon les différentes étapes de la croissance spirituelle. Dans la vie chrétienne, nous devons nécessairement commencer comme de petits enfants. Normalement, nous devons nous développer et devenir des jeunes gens, et finalement des pères. Chacune de ces trois classes possède ses propres caractères. Le verset 13 établit les traits caractéristiques de ceux auxquels l'apôtre écrit, non les sujets dont il va s'occuper, ni la base de son écrit. Les pères étaient caractérisés par la connaissance de celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire qu'ils avaient mûri dans la connaissance de Christ, cette parole de la vie, dans laquelle la vie éternelle avait été manifestée. Ils connaissaient réellement celui en qui avait été révélé tout ce qui doit être connu de Dieu. Toute autre connaissance s'efface entièrement devant celle-là. C'est celle que possédaient les pères. Les jeunes gens étaient caractérisés par le fait qu'ils avaient vaincu le méchant. La suite du chapitre montrera plus exactement la portée de cette expression. S'ils avaient vaincu les pièges subtils que le diable avait tendus par le moyen d'enseignements antichrétiens, c'est parce qu'ils étaient fondés dans la parole de Dieu. Au début de notre vie de croyant, avant d'avoir eu le temps d'être bien fondés dans les enseignements bibliques, nous sommes particulièrement exposés à être égarés par des enseignements spécieux, contraires à la parole, et à être ainsi vaincus par le méchant. C'est le danger auquel sont exposés les petits enfants, comme nous le verrons en détail plus loin. Pourtant, il y a un beau trait qui caractérise ceci, ils connaissent le Père. Le nouveau-né humain manifeste vite la capacité de reconnaître ses parents, et il en est de même des enfants de Dieu. Ils possèdent sa nature, et ainsi ils le connaissent. Ils ont encore beaucoup de choses à apprendre au sujet du Père, et pourtant ils connaissent le Père. Nous qui sommes enfants de Dieu, prenons garde à ne pas rester de petits enfants. C'est par là que nous devons commencer, mais recherchons ce contact constant avec la parole de Dieu qui produira notre croissance spirituelle et nous conduira à devenir des jeunes gens et même, finalement, des pères. Ayant donné au verset 13 les traits qui caractérisent respectivement les pères, les jeunes gens et les petits-enfants, l'apôtre aborde au verset 14 son message particulier à chacun des trois. Il commence de nouveau par les pères. Le message qu'il leur adresse est marqué par une extrême brièveté. De plus, il s'exprime exactement dans les mêmes mots que ceux qu'il vient d'utiliser pour indiquer leurs traits caractéristiques. Ceci est remarquable, et nous pouvons bien nous demander pour quelle raison il en est ainsi. Lorsque nous arrivons à la connaissance de celui qui est dès le commencement, nous atteignons la connaissance de Dieu qui, dans sa plénitude, est infinie et éternelle, et au-delà de laquelle il n'y a rien. Celui qui est dès le commencement, c'est celui qui est le Fils, la parole de la vie, manifestée au milieu de nous. En lui, Dieu nous est connu, et il n'y a rien au-delà de cette connaissance d'une profondeur infinie. Or les pères le connaissaient de cette manière profonde et merveilleuse. Le Dieu qui est amour était devenu la demeure de leur âme. En demeurant dans l'amour, ils demeuraient en Dieu et Dieu en eux. Ils n'avaient qu'à continuer à approfondir cette connaissance bénie. Il n'y avait pas besoin de leur dire quelque chose de plus. Les jeunes gens n'avaient pas encore grandi jusqu'à ce niveau, mais ils étaient en chemin dans cette direction. Ce qui les caractérisait, c'est qu'ils avaient vaincu le méchant, comme l'a dit le verset 13. Nous apprenons maintenant comment cette victoire avait été remportée. Ils avaient été rendus forts par la parole de Dieu qui demeurait en eux. Nous entrons tous dans la vie chrétienne comme de petits enfants, et si nous avons une croissance saine, nous avançons vers l'état de jeunes gens. Or, la connaissance de la parole de Dieu joue un rôle primordial, car nous ne pouvons pas demeurer dans ce que nous ignorons. Nous avons ici la raison pour laquelle tant de vrais croyants d'un âge respectable sont restés de petits enfants. Ce sont des nouveau-nés dont la croissance a été arrêtée. Ils ne sont jamais devenus réellement familiers avec la parole de Dieu. Le grand adversaire de l'œuvre de Dieu sait très bien le besoin que nous en avons, et il est facile de voir comment il déploie toute son adresse pour nous en priver. Les conducteurs religieux ont parfois ôté la Bible des mains des fidèles, prétendant que, étant la parole de Dieu, elle est bien trop haute pour les laïcs et ne peut être placée que dans les mains des docteurs de l'Église, seuls capables de l'interpréter. En d'autres époques, c'est le modernisme qui a prévalu. Dans sa forme pleinement épanouie, celui-ci nie entièrement la parole de Dieu. Selon lui, la Bible n'est qu'une collection de légendes douteuses, entremêlées de réflexions religieuses surannées. Dans sa forme adoucie, qui souvent séduit de vrais chrétiens, et par conséquent est la plus dangereuse pour nous, il affaiblit l'autorité de la parole, et par là condamne ses adeptes à un perpétuel état d'enfance spirituelle. Et là où ces déviations n'apparaissent pas, les fidèles se contentent, bien souvent, de ne tirer leur connaissance de la parole que des textes sur lesquels leur pasteur voudra bien prêcher. Ils ne lisent pas, ils n'étudient pas, et ils ne digèrent pas la parole pour eux-mêmes. Par conséquent, leur croissance est aussi arrêtée. Mais il ne suffit pas de connaître la parole, elle doit demeurer en nous. Elle doit habiter nos pensées et nos affections. Ainsi, elle dirigera nos vies entières. S'il en est ainsi, il pourra être dit de nous que nous sommes forts, car nos vies seront fondées sur le rocher invincible de l'Écriture sainte. Mais même alors, la force n'est pas tout, car nous devons encore être conduits dans la connaissance de celui qui est dès le commencement, ce qui caractérise les pères. Les jeunes gens sont exposés à un danger qui, s'ils en sont victimes, les empêchera d'avancer dans cette connaissance bienheureuse. Ce danger, c'est le monde et l'amour du monde. Non seulement le monde comme un concept abstrait, mais les choses concrètes et matérielles qui sont dans le monde. Nous utilisons beaucoup de ces choses, occasionnellement même nous en jouissons, mais nous ne devons pas les aimer. Ce que nous aimons domine sur nous, et nous ne devons pas être dominés par le monde, mais par le Père. L'amour du monde et l'amour du Père s'excluent mutuellement. Nous ne pouvons pas être habités par les deux à la fois. C'est l'un ou l'autre. Lequel est-ce pour nous? Si l'amour du Père est en nous, nous verrons le monde à sa vraie lumière. Nous posséderons une faculté spirituelle qui agira à la manière des rayons X. Nous irons au-dessous de la surface des choses et verrons le fondement structurel sur lequel tout est bâti. Ce fondement nous est présenté au verset 16. C'est la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Toutes ces choses ne viennent pas du Père, mais sont entièrement du monde. La convoitise de la chair, c'est le désir d'avoir, le désir de posséder pour soi les choses qui satisfont la chair. La convoitise des yeux est le désir de voir, que ce soit avec les yeux physiques ou avec ceux de l'esprit, toutes les choses qui satisfont le plaisir. Cela englobe l'appétit intellectuel insatiable de l'homme, tout comme la chasse effrénée au plaisir de tout ce qui peut être vu. L'orgueil de la vie est le désir d'être, le désir ardent d'être quelqu'un ou quelque chose qui flatte l'orgueil invétéré du cœur. C'est, des trois, le mal le plus profondément enraciné, et en même temps celui dont on se doute le moins. Ce verset place sous nos yeux le fondement sur lequel le système du monde est bâti. Chacun de ces éléments est totalement opposé au Père et au monde qui doit venir, quand l'ordre actuel du monde aura été mis de côté. Le monde s'en va, nous est-il dit, ainsi que sa convoitise. Nous ne sommes pas surpris de l'entendre. Quelle grâce de Dieu qu'il en soit ainsi. Le monde disparaîtra, tandis que le Père et son monde à lui demeureront. Nous serions vraiment insensés si nous étions remplis de l'amour pour ce qui va disparaître plutôt que de l'amour pour celui qui demeure. Quel contraste frappant au verset 17. Nous aurions pu nous attendre à ce que la fin du verset soit « Mais le Père demeure ». Cela est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de le dire. Le verset se termine par « Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement ». Quelle fête merveilleuse ! C'est le monde qui s'en va. Lorsque des croyants meurent, nous disons parfois « ils s'en sont allés ». Le monde continue sans eux et semble parfaitement stable. mais l'apôtre Jean voit les choses d'un point de vue divin, et il nous aide à faire de même. Alors nous voyons le monde prêt à disparaître, tandis que celui qui fait la volonté de Dieu, bien qu'il soit retiré de la scène terrestre, demeure éternellement. Il est au service de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est sûre et demeure. Le serviteur de cette volonté demeure également. L'apôtre s'adresse maintenant aux petits-enfants. Sans préambule, il les met en garde avec vigueur contre les docteurs antichrétiens qui commençaient à abonder. L'Antichrist est un sinistre personnage dont l'apparition est annoncée pour les derniers jours. Il n'est pas encore revenu, mais beaucoup d'autres personnages de moindre importance, qui portent les mêmes caractères à divers degrés, sont depuis bien longtemps sur la scène. Ceci nous montre que nous sommes au temps de la fin, c'est-à-dire à l'époque qui précède immédiatement le moment où le mal parviendra à son comble et sera jugé. Les antichrists qui étaient apparus à l'époque de Jean avaient été un temps au milieu des croyants, verset 19. Mais au moment où l'apôtre écrivait, ils s'en étaient séparés et les avaient quittés. Par ce comportement, ils manifestaient qu'ils n'avaient jamais vraiment fait partie de la famille de Dieu, ils n'étaient pas des nôtres. Une caractéristique du vrai croyant, c'est qu'il tient ferme la foi. Or ces gens l'avaient abandonné et avaient quitté la compagnie des chrétiens, montrant par là qu'ils n'avaient pas de lien vital avec les enfants de Dieu. Le véritable enfant de Dieu a l'onction de la part du Saint, ce que les antichrists n'avaient jamais possédé. L'onction que les croyants ont reçue, versets 20 et 27, est en relation avec le Saint-Esprit. Habitant dans les enfants de Dieu, celui-ci est la source d'où découle leur compréhension spirituelle. Le plus petit enfant dans la famille divine a reçu cette onction, de sorte qu'on peut dire de lui qu'il connaît toutes choses. Le mot utilisé ici pour « connaître » désigne une perception intérieure. Pour ce qui est de la connaissance à acquérir, le petit enfant ignore encore des milliers de détails, mais l'onction lui donne la capacité intérieure qui amène toutes choses à sa portée. Il connaît potentiellement toutes choses, mais pas encore en détail. Ainsi, on peut dire même du petit enfant qu'il connaît la vérité et qu'il possède la capacité de distinguer entre elle et le mensonge. Il se peut qu'il ne connaisse encore l'Évangile que dans ses plus simples éléments, mais dans cet Évangile, il a la vérité pure, la vérité fondamentale de laquelle découlent toutes les autres vérités. De sorte que, par effet de contraste, tous les mensonges du diable peuvent être détectés lorsqu'ils sont placés sur l'arrière-plan lumineux de l'Évangile. Chaque mensonge du diable vise d'une manière ou d'une autre la vérité concernant le Christ de Dieu. Satan est un tireur d'élite, et même lorsqu'il semble diriger ses coups vers les bords de sa cible, il calcule un rebond qui les amènera en plein centre. Au jour de l'apôtre, il visait ouvertement le centre. Les antichrists niaient effrontément que Jésus était le Christ. Ils niaient le Père et le Fils. De nos jours, il y en a encore qui font cela. Mais la plupart agissent autrement. Ils introduisent des enseignements plus subtils, pas tellement dangereux en apparence, mais qui finalement conduisent au même reniement, et ainsi le centre de la cible est atteint. L'Antichrist, lorsqu'il apparaîtra, reniera complètement le Père et le Fils. Daniel annonce qu'il s'élèvera contre tout Dieu et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, chapitre 11, verset 36. Et cette prophétie est complétée dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4.
Le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.
Les divers antichrists qui le précèdent marchent tous dans la même ligne. Leur reniement touche plus particulièrement le Fils qui a été manifesté sur la terre, et ils prétendent volontiers qu'ils n'ont rien à dire au sujet du Père ni contre lui. Mais une telle prétention est vaine. Nier le Fils, c'est nier le Père. Confesser le Fils, c'est avoir aussi le Père. Bien qu'ils soient des personnes distinctes, le Père et le Fils sont un dans la Déité. Celui qui a l'onction, le Saint-Esprit, qui est un avec eux dans la Déité, sait très bien cela, et il ne peut pas facilement être trompé à ce sujet. Tout l'Ancien Testament nous amène à la conclusion que Jésus est le Christ, voir Actes 17, versets 2 et 3.
Et selon sa coutume, Paul entra vers eux, et pendant 3 sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât d'entre les morts, et disant que celui-ci, Jésus, que moi je vous annonce, est le Christ.
Cependant, la vérité quant au Père et au Fils est révélée dans le Nouveau Testament. Cela ne signifie pas que la relation entre le Père et le Fils ait commencé à cette époque. Mais c'est alors que cette relation éternelle dans la Déité a été, pour la première fois, dévoilée entièrement. La communion dans laquelle nous sommes introduits est avec le Père et avec le Fils, ainsi qu'il nous est dit au début de l'Épître. C'est pourquoi la négation de cette vérité détruit nécessairement notre communion. Il est utile de remarquer que l'erreur prend souvent la forme d'une négation de la vérité. De façon générale, les négations sont dangereuses. Elles devraient être utilisées avec précaution et être basées sur une large connaissance. Une négation nécessite une plus grande connaissance qu'une affirmation. Par exemple, pour affirmer qu'une certaine chose est dans la Bible, il suffit de connaître le verset où elle est dite, mais pour prétendre que quelque chose n'est pas dans la Bible, il est nécessaire de bien connaître celle-ci d'un bout à l'autre. Dès le commencement, Jésus a été manifesté comme étant le Christ, et, comme Fils, il a révélé le Père. Même les petits-enfants possédaient cette connaissance. Elle devait demeurer en eux, tout comme elle doit demeurer en nous. Jésus est le Christ, c'est-à-dire loin. Nous avons reçu l'onction afin que la vérité puisse demeurer en nous et que, par conséquent, nous demeurions dans le Fils et dans le Père. L'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes en Christ. C'est le fruit de l'œuvre de grâce de Dieu. L'apôtre Jean nous instruit quant à la révélation du Père et du Fils et quant à la communion établie en rapport avec la relation dans laquelle chaque enfant de Dieu, même le plus petit enfant, est introduit. Et ainsi, nous pouvons demeurer dans le Fils et dans le Père. Le Fils est mentionné en premier, parce que nous ne pouvons demeurer dans le Père que si nous demeurons dans le Fils. Demeurer, c'est rester dans la connaissance consciente et dans la jouissance du Fils et du Père. Ceci n'est possible pour nous que si nous sommes nés de Dieu et avons reçu l'onction. Demeurer dans le Fils et dans le Père, c'est la vie éternelle, cette vie dont la promesse avait été faite même avant les temps des siècles. Tite 1, verset 2.
L'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles.
Parlant de la vie éternelle, le Seigneur a dit, c'est qu'ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Le verset 25 de notre chapitre va un pas plus loin en disant, c'est ici la promesse que lui nous a promise, la vie éternelle. Celui qui demeure dans le Fils et dans le Père demeure dans la vie qui est éternelle. La vie éternelle a été manifestée et a été vue, mais cela a été le privilège des apôtres seuls. Or, nous pouvons posséder cette vie et demeurer en elle. Ceci est pour chacun de nous, car ces choses ont été écrites aux petits-enfants dans la famille de Dieu. L'apôtre dit tout cela pour affermir les petits-enfants contre les docteurs qui cherchaient à les égarer. Au verset 27, il revient à l'onction, car c'est par l'Esprit qui leur avait été donné que toutes ces choses étaient à leur disposition. Quel réconfort de savoir que l'onction demeure en nous. De ce côté, il n'y a ni changement ni manquement, et l'onction ne fait pas que demeurer, elle enseigne à l'égard de toute chose. L'instruction peut nous parvenir de l'extérieur, mais c'est par le Saint-Esprit que nous avons la capacité de la comprendre. Il n'y a pas de nécessité qu'un homme nous enseigne. Cette remarque n'a pas pour but de discréditer les docteurs que le Seigneur peut avoir suscités et doués pour faire son œuvre, autrement nous pourrions l'utiliser pour discréditer l'épître que nous lisons. Elle a pour but de nous faire réaliser que même des docteurs doués ne sont pas absolument indispensables. Par contre, l'onction est indispensable. L'onction elle-même est vraie. Ceci est répété d'une manière légèrement différente au verset 6 du chapitre 5.
C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité.
Christ est la vérité comme un objet placé devant nous. L'Esprit est la vérité, et il l'amène dans nos cœurs par l'enseignement divin. L'apôtre Jean pouvait dire à ses petits-enfants, selon qu'elle vous a enseigné, car ils avaient déjà l'onction. Grâce à Dieu, nous avons aussi l'onction. Ainsi les mots qui suivent sont aussi pour nous, vous demeurerez en lui. Nous pouvons bien être que de petits-enfants, notre connaissance peut être très limitée, mais que rien ne nous fasse dévier de cette vie et de cette communion dans laquelle nous sommes. Christ est le centre de tout cela, demeurons en lui. Le paragraphe spécialement adressé aux petits-enfants commence au verset 18 et se termine au verset 27. Au verset 28, nous retrouvons le mot « enfant » qui a un sens plus général, celui qui est utilisé au verset 1 et 12, ainsi que dans le chapitre suivant, au verset 7, 10 et 18. Dans ce verset 28, l'apôtre s'adresse de nouveau à toute la famille de Dieu, à tous les enfants de Dieu, indépendamment de leur croissance ou de leur état spirituel. Il vient d'assurer les petits-enfants qu'ils possèdent l'onction et que, par conséquent, ils peuvent demeurer en lui. Maintenant, il se tourne vers toute la famille de Dieu et exhorte ceux qui la composent à demeurer en lui. Ce qui est bon pour les petits-enfants est bon pour tous. Demeurer en lui, voilà la source de tout fruit et de toute croissance spirituelle. Lorsque nos regards se détournent de lui, lorsque les affections et les intérêts de nos cœurs se tournent vers le monde, nous devenons faibles et sans fruits. L'apôtre regardait au jour de la manifestation de Christ, au jour où nous serons tous révélés dans notre vrai caractère. Il désirait que nous ayons tous de l'assurance ce jour-là et que nous ne soyons pas couverts de honte. Christ sera manifesté, et nous aussi nous serons manifestés à sa venue. Il y a évidemment la possibilité que le croyant soit couvert de honte à cette heure solennelle. Il est très probable que ces mots de l'apôtre expriment son propre sentiment de responsabilité envers ceux auxquels il s'adresse, et qu'il désire qu'ils ne lui fassent pas honte en ce jour-là. Mais ils disent aussi très certainement que chacun de nous pourrait être couvert de honte personnellement. Demeurons réellement en lui, afin de porter du fruit maintenant et d'avoir de l'assurance en ce jour-là. Ainsi, ni nous, ni ceux qui ont travaillé pour nous, qu'ils soient évangélistes ou pasteurs, ne seront couverts de honte.